Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre radio préférée, Radio J, une radio que l'on peut écouter partout, dans la rue, dans votre lit, sur le canapé, dans la voiture, en cuisine et même en broadcast. Une Radio J à la carte, c'est pas merveilleux ça? Ouvrez grand vos oreilles, fais-moi une place, c'est maintenant, le rouge est allumé et quelle joie de vous retrouver tous. Es-tu prêt, invité surprise en un mot?
Oui, bien sûr.
J'ai devant moi quelqu'un de très élégant, tiré à quatre épingles. Merci d'être là, Robert Walter.
Moi aussi, merci de m'inviter.
Bah, c'est un grand plaisir. Alors, c'est quoi pour toi l'élégance, Robert Walter?
L'élégance, c'est lorsqu'on sort de chez soi, le respect du public que l'on rencontre.
Et ta vie est rythmée par de nombreuses rencontres, Robert?
Oui, en effet, j'ai grâce à une amitié solide avec... Tommy, j'ai rencontré le plus grand nombre de personnes qu'on puisse imaginer.
Grâce à lui, c'est pour ça qu'on est ensemble, pour parler de Tommy. Hein. Alors, tu es un personnage public, tu es très occupé, tu es partout, en Alsace, en Allemagne, tu as des dîners de gala, tu vas aux expos, enfin, tu as une vie de dingo, dis-moi Robert.
Ah, je m'occupe beaucoup, j'ai la chance de vivre seul et donc... De pouvoir faire ce que je veux, quand je veux.
D'organiser ton temps, quoi, ton
planning. Totalement.
Hein, absolument. Alors, c'est vrai, on va le dire, ta plus grande rencontre, c'est Tommy Ungerer, l'affichiste, l'homme de pub, le dessinateur, l'inventeur d'objets, un amuseur aussi.
Oui, c'est lui qui a totalement changé le cours de ma vie. J'avais une vie qui était prévue de venir un peu dans la diplomatie culturelle, mais un jour, Tommy m'a appelé et m'a dit... Robert, viens travailler avec moi.
Et tu ne l'as jamais quitté, quoi?
Je ne l'ai jamais quitté jusqu'au...
Même aujourd'hui, tu es encore...
Bientôt 7 ans, la nuit du 7 au 8 février, que Tommy est mort en Irlande en 2019.
Qu'il est parti dans les étoiles, marcher là-haut sur toutes les galaxies.
Des étoiles.
Le chemin des étoiles, c'est beau. Alors, parle-moi un peu de Tommy. Il était comment? Il était grand? Il était un peu ténébreux comme ça?
Un homme très grand. Avec une présence incroyable, il était le public l'aimait, tout le monde l'aimait. C'était une personne qui allait, les taxis de Strasbourg adoraient le prendre. Il prenait que le taxi d'ailleurs, il ne conduisait plus. Et puis,
Il nous défendait. C'était un défenseur de l'Alsace, de Strasbourg.
Il adorait l'Alsace. C'était merveilleux. Comme tous les grands hommes, il avait aussi des moments de colère. Pour certaines causes.
Mais oui, il a eu raison. Oui. Des fois, il faut taper sur la table et dire ce qu'on pense. Alors, il avait un esprit bouillonnant, comme ça, un ogre qui croquait le monde, hein, c'est vrai.
Oui, et puis c'est rare de rencontrer un vrai génie. Tommy était un génie.
Je crois que c'est un des plus grands génies. On en a connu des gens, mais lui, c'était un grand homme.
Dans le dessin, c'est sûrement l'homme du siècle
absolument.
En France.
Ouais, parce qu'il est plus connu dans le dessin ailleurs que chez nous en France. Il était très connu aux États-Unis, en Allemagne.
Ah oui, je l'ai accompagné dans beaucoup d'expositions qu'il faisait, les milliers de gens qui faisaient la queue pour avoir une signature.
Pour le rencontrer, une dédicace.
Je ne l'ai pas connu aux États-Unis, malheureusement. On y allait plus tard, à la fin, quand il a eu un nouvel éditeur, parce qu'il avait été interdit de publication à un moment donné.
À cause de ses dessins un peu olé-olé.
Érotique, voilà, exactement.
Alors, avant de papoter de Tommy Ungerer, ce qui nous fait absolument plaisir à tous les deux, nous allons un peu rembobiner ta vie, Robert. Alors, tu es prêt? En quelques mots, en un seul mot, Robert, tu réponds, hein, d'accord?
Oui.
Alors, quelle est ta couleur préférée?
Ma couleur préférée, le violet.
Ton animal préféré?
Ça va être mon chat Choupi.
Oh, c'est mignon ça! Tu as un chat à la maison?
Oui, Choupi, adorable.
Ah, c'est génial.
C'est une star sur les réseaux.
Ah ben ça, j'imagine, j'ai déjà vu ça, ouais. Et quel est ton héros préféré?
Mon héros préféré, je vais dire... Tommy
Unger, je savais que tu allais dire ça. Et si tu étais un arbre, tu serais lequel?
Un chêne, je dirais. Puisqu'il faut que, avec mon enfance, il faut que je me réfère à des choses solides.
Solides. Et le chêne ne se plie jamais. Hein. C'est le roseau qui plie. Mais,
hein. Oh, il s'adapte tout de même.
Il s'adapte aussi, ouais.
C'est un peu roseau.
Et si tu étais une fleur, tu serais laquelle ?
La rose.
Oh, pourquoi ?
Que j'adore.
Pour quelle raison ?
Et puis, c'est la fleur qu'on offre en général.
Quand on est amoureux.
J'adore offrir.
Quand on est, oui.
Amoureux, oui. Ouais. Beaucoup de bouquets à la maison que j'aurais pu offrir.
Et c'est vrai que c'est beau d'offrir des fleurs à quelqu'un qu'on aime. Des roses, par exemple.
Ah oui, j'aime offrir les fleurs.
C'est un beau message.
Bon,
ouais.
C'est un peu de cognac, parfois, ou du champagne.
Oui, ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est très élégant. Alors, à quelle époque aurais-tu aimé vivre, Robert ?
Moi, j'adore la période où je vis.
En ce moment ?
En ce moment.
Par cette froidure et ce temps maussade.
Oui, mais le soleil, il est en soi.
Ah, c'est beau ça, j'adore ce que tu dis, ouais. Et quel est le parfum de ton enfance que tu n'oublieras jamais, Robert ?
Ça a été mon premier voyage au Maroc, le goût du thé à la menthe.
Oh, c'est bien ça.
J'adore.
Quand les Touaregs te servaient du thé, tout ça, dans les...
Oui, oui. Ouais, j'avais une bourse Elidja et j'ai étudié la reconstruction d'Agadir.
Ah, oh, c'est extraordinaire, Agadir, quelle ville exceptionnelle.
42 000 morts
En
1962.
Ah ouais, c'est beau ça. Et alors, on va... À quel âge tu étais... Attends, on va revenir un petit peu en arrière. Et quel enfant étais-tu, Robert ? Pardon, c'est la question que je voulais te demander. Est-ce que tu étais un enfant turbulent, sage, qui tenait jamais en place ?
J'étais un enfant très sage, mais très curieux.
Ah, ça c'est bien la curiosité, ouais.
La religieuse qui m'avait en classe à l'âge de 7 ans, elle me disait « Tu restais toujours à la fin de la classe ». Pour me poser plein de questions.
Ah, c'est bien ça. Ce que tu es toujours aujourd'hui, tu aimes bien poser plein de questions à tout le monde.
Oui.
Ah, c'est vrai. Hein. Et alors, à l'âge de 5 ans, c'est vrai qu'il y avait une grande tristesse, tu étais un peu abandonné, on peut dire
oui,
ça comme ça.
Oui, je suis à Langstrasse, à la Grand-Rue, et puis à l'âge de 5 ans, j'ai été retiré de ma famille. C'était un peu trop dur. Bon, c'est une histoire presque romanesque.
Ouais.
Et donc, je suis allé au Willerhof, à Hilsenheim, où j'ai été élevé pendant 12 ans.
Et alors, c'était quand même une très grande tristesse quand on manque un peu d'affection, tout ça, c'est quand même triste, non ?
Oui, mais du coup, ça développe le sens de l'amitié.
C'est vrai ?
Et puis le sens d'obliger à se libérer du commun, d'essayer de faire remarquer. Et avec Tommy, j'ai retrouvé ça.
Ah oui, aussi, ouais. Alors, et parle-moi un peu de ton enfance. Tu étais un bon élève ? Tu étais un peu rêveur, un bosseur à l'école ?
Alors,
comment c'était pour toi ?
J'ai un ami de l'époque de l'orphelinat et aussi du petit séminaire chez les pères assomptionnistes à Chervillers. Il m'a dit, toi, en mathématiques, tu étais toujours le premier. Au bout de 10 minutes, tu faisais toujours tous les exercices.
C'est vrai, tellement tu étais rapide.
J'aimais beaucoup les mathématiques.
Ah ouais, c'est étonnant, parce que moi, ce n'était pas mon truc, les maths. C'était plutôt le français, tu vois. Les maths, c'était un peu compliqué. Oui. Surtout l'algèbre, je me demandais à quoi ça servait, tu vois.
Oui, oui.
Mais bon. Et après, quand tu étais adolescent, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ? Tu voulais être pompier, policier, tennisman, dirigeur de vent sur Mars,
ben,
peut-être ?
À l'âge de 12 ans, les religieuses avaient décidé de m'envoyer à Hilsenheim, ou à la boulangerie, pour devenir boulanger. Et je leur ai dit, non, je vais devenir prêtre.
Ah,
et donc, on m'a
marrant,
envoyé
ça.
À Chervillers, l'ordre des pères assomptionnistes, qui possède la bonne presse, enfin Bayard Presse. J'ai été élevé là-bas ensuite pour mes études.
Et alors, à ce moment-là de ta vie, tu écoutais quel style de musique ? Tu écoutais un peu les Stones, les Beatles, ou alors de la musique classique, tout simplement ?
La musique est mon grand manque, parce que ni à l'orphelinat, ni chez les prêtres, on écoutait beaucoup de musique. Donc, j'écoute maintenant surtout des choses très classiques.
Bah justement, on va y venir. On va m'écouter un peu de musique classique. Tu vas voir. On va te mettre une petite tranche de classique. Vas-y voir, Thomas. C'est beau le piano, non ?
Ah oui, j'adore.
Chopin ?
Oui, Chopin. J'ai visité la maison de Georges Sand, où il traînait parfois.
Tu te noies chez toi dans la musique, j'imagine. Chez toi, c'est une grande bibliothèque avec plein de livres, avec le buste de Nefertiti, je crois.
Oui. Mon Nefertiti, ça a été mon premier achat quand j'ai eu mon premier poste de prof. J'ai eu mon premier salaire, j'ai foncé à Berlin et j'ai acheté ce buste qui m'avait fasciné très, très tôt. Mais ouais, chez moi, j'écoute à longueur de journée
La musique classique.
La musique classique.
Et c'est vrai que Nefertiti, elle est à Berlin. Elle est trône là, dans cette grande salle, dans ce grand musée à côté
Faudra
de cette...
que je trouve un mécène un jour qui puisse pour l'offrir à l'égyptologie, à l'université.
Tu veux dire mais les Allemands ne vont jamais s'en séparer. Tu crois pas?
Non, le mien.
Ah, le tien. Ah oui, ça, c'est une bonne idée, ouais. Mais c'est pas l'original que t'as chez toi, c'est une copie.
C'est une copie identique.
Identique? Ah ouais,
totalement
okay.
Identique.
Wow. Ouais. Alors, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, tu te noies un peu dans la musique et tu fais aussi des études de théologie parce que tu voulais être curé au service d'une paroisse, c'est ça?
Voilà, c'était
ça,
peu
ton
mon
truc
rêve.
Ah ouais?
Je pense qu'à l'orphelinat, c'était tellement dur avec les religieuses que le seul homme qui incarnait la bonté, la gentillesse, c'était l'aumônier.
C'était l'aumônier.
Qui avait 80 ans et qui nous adorait.
Ah ouais. Mais alors, une vie spirituelle de célibat, tu pouvais te passer de la tendresse d'une femme à ce moment-là, avec cette idée que tu avais eue de devenir cureton?
Non, j'ai passé tout ça dans mes études. Et puis, quand on vit pendant 15 ans à l'orphelinat, qu'on est entouré que de garçons, à la fin, on s'y prend...
D'amitié, quoi.
D'amitié,
ouais.
Voilà.
Ouais, c'est bien, ça. Alors, bien sûr, tu es devenu un prof d'histoire, tu es devenu un enseignant, hein, je crois.
Voilà, je suis devenu prof d'histoire. À l'époque, on était bivalents, histoire et français.
Ah oui, d'accord. Donc, tu enseignais autant le français...
Que l'histoire géo.
Par le bled, tout ça.
Et du coup, c'est d'ailleurs, ça m'a servi parce que je suis parti comme coopérant en Algérie.
Waouh.
À côté de Biskra.
Biskra
dans le nord du désert du Sahara.
Fais-moi rêver un peu, c'est comment le désert du Sahara?
C'est fascinant. Si je n'étais pas allé à Hambourg, après, je serais resté toute ma vie comme prof là-bas.
Bah, c'est vrai que ça rend... Quand on est une fois dans le désert et qu'on est dans les dunes et qu'on voit les étoiles la nuit, qu'on a l'impression de pouvoir les cueillir comme ça dans le ciel, c'est des moments fabuleux, quoi.
Oui, oui.
Et l'Algérie, c'est un des plus beaux déserts qui existent.
Ah, oui,
et je crois que c'est dans le pays, c'est plus de 80% de désert en Algérie.
Et puis il y a notre Alsacien Charles de Foucault qui est enterré là-bas,
dans le grand
sud.
Ouais, c'est merveilleux, c'est fascinant le désert. Hein.
Oui, oui. Et puis les gens m'accueillaient bien. Il y avait 20 000 habitants dans le village, Ouled Djellal, et j'étais le seul Français. Donc partout bien reçu.
Et tu leur enseignes le français là-bas?
Le français au lycée. Il y avait 600 élèves, mais que 20 filles.
Ah ouais? Et mais en fait, dans ce désert, dans cette Algérie, là, dans la journée, il fait des fois plus 45 et la nuit, il fait zéro des fois. Hein, il fait froid.
Oui, mais j'avais une belle villa
qu'on
m'avait mis à disposition et j'avais du chauffage électrique.
Ah oui, et tu retiens quoi de ces 3 ans de passage en Algérie?
Ça m'a fait connaître un peuple, des habitudes. Bon, il y avait aussi un peu des sites préhistoriques là-bas dans le coin qui n'étaient pas du tout entretenus ou recherchés. Mais aussi, j'ai connu la religion musulmane à ce moment-là et le rôle de la femme, malheureusement, en 3 ans, je n'ai pas vu de femme dans la rue.
Quasiment jamais. C'est incroyable. Et on va écouter un petit peu de musique. Tu vas voir, je te mets une petite tranche de musique Touareg. Mets-nous voir un peu de musique pour lui rappeler des bons souvenirs à notre ami. Hein, notre invité surprise.
Vidéo. Zirkas, go, sure. Hey! Good evening. Come on, Chanel.
C'est des musiques qui te rappellent des bons souvenirs, ça, avec les instruments un peu des Touaregs, le chant en dessous,
oui,
des tentes, le thé à l'amande, le feu.
Il n'y avait pas de spectacle là-bas. Donc,
ouais. C'est toi qui faisais le spectacle,
oui,
sans,
oui,
doute. Et enfin, on va arriver à ta rencontre avec Tommy Ungerer au fil de cette émission. C'était à Hambourg, je crois, dans les années 80, que tu l'as rencontré,
voilà,
pour la première fois.
En 81, je quitte le Sahara, ouais, pour arriver, je suis nommé à Hambourg, responsable culturel pour l'Allemagne du Nord.
C'est pas vrai.
Non, jusqu'à
mais
la
comment
frontière danoise.
Mais comment,
il faut candidater au Quai d'Orsay, aux,
d'accord,
affaires étrangères. Et donc, j'ai eu ce poste à Hambourg. Je devais développer le franco-allemand à travers les villes d'Allemagne du Nord. Husum, Lübeck.
Ouais, Lübeck, ah, c'est une belle ville, Lübeck. C'est,
ah,
très,
c'est
beau,
une,
là.
Une ville, ouais, merveilleuse.
C'est une ville avec des briques rouges partout, je,
voilà,
crois.
La ville de Thomas Mann.
Ouais, de Thomas
Mann. Ça m'a,
ouais,
incité, ouais, à,
ah,
lire,
ouais,
l'œuvre de Thomas Mann,
ah, ouais,
que j'adore.
Ouais.
Et donc.
Mais Hambourg, c'est aussi une magnifique ville, ville,
ah,
portuaire.
La
avec...
plus belle ville d'Allemagne,
ah,
pour,
je,
moi.
Je crois, moi aussi.
Ouais,
c'est,
oui,
une super belle ville. Et là, aujourd'hui, il y a une salle de concert qui est une des plus belles du monde.
Oui, qui a coûté très cher, qui a été très,
sais,
longue à construire.
Ouais, ouais, mais ils ont eu raison d'y mettre beaucoup, d'investir beaucoup d'argent.
Oui.
Aujourd'hui, c'est une renommée mondiale, cette salle.
Oui, oui.
Tu as déjà écouté un concert là-bas?
Ah oui, oui, j'allais, puis il y a des chambres d'hôtel, mais je n'ai pas encore été tout en haut.
Des chambres d'hôtel dans ce bâtiment, tu,
oui,
veux,
oui,
dire, au-dessus?
Tout en haut.
Ah ouais, ouais. Mais on ne doit pas bien dormir quand il y a tellement de musique.
Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai découvert plein de personnages. Wolf Biermann, le grand chanteur allemand, Eva Maria Hagen, ma voisine,
ah ouais,
qui était la maman de Nina Hagen.
Oui, oui, que j'ai bien connue à,
ah,
Strasbourg.
Oui. Ah,
elle,
oui,
était un jour dans ma vieille Mercedes d'occasion, une vieille Mercedes des années 80. On avait fait une interview avant qu'elle ne chante à Strasbourg. Et on avait fait tout un périple dans Strasbourg. Et elle me répondait dans une Mercedes un peu pourrie comme ça. Mais elle était géniale, avec des,
ah,
cheveux,
oui,
rouges et tout. Elle était extraordinaire, cette femme. Ouais,
ah,
ouais,
oui, c'était extra.
Ah, ouais. Et alors... Comment il était dans ces années-là, dans les années 80, Tommy Unger? Est-ce que c'était déjà un homme volubile comme ça, pas timide, il allait facilement vers les gens?
Ah oui, oui, ben, il était à Hambourg à l'époque, là, toute la presse allemande était à Hambourg avant Berlin.
Oui, oui, c'est
et
vrai.
Et donc il travaillait pour tous les journaux, Spiegel, Stern, Zeit. Et du coup...
Et il faisait de la caricature, en fait, des dessins.
Oui,
il faisait
dessinait pour ces journaux.
Pour ces journaux-là, sur l'actualité, un peu,
voilà,
un peu comme Cabu en France. Et...
Exactement.
C'était le...
Et alors, en 1987, quand il a dit, Robert, moi je pars maintenant, je retourne définitivement en Irlande, et toi, tu vas partir à Madrid. Alors, on va faire connaître l'Alsace aux Hambourgeois.
Ah oui.
Et on a fait une semaine alsacienne... Hartung die Elsässer kommen.
Ah, génial.
350 Alsaciens qui sont montés à Hambourg.
Waouh.
Tous les hommes politiques, Pierre Flumelin, Marcel Rudloff, le cabaret de Germain Müller, Roger Siffert, Lise Lottam, Jean-Marie Hummel, tous les grands peintres, les dessinateurs, Roland Recht avait fait une belle exposition. On avait accaparé tout. Tout Hambourg.
Tout ce qui est Alsace, quoi.
Et notre ami Raymond Weidelich avait emmené un camion plein, enfin, de terre.
Oh, c'est génial.
Tiré d'une propriété du Moyen-Âge,
ah ouais,
qui appartenait depuis le Moyen-Âge aux hospices civils,
wow,
de Strasbourg. Même à la frontière, ils étaient un peu ennuyés, ils ne savaient pas comment gérer ça. Et puis, à Hambourg, on l'a implanté dans le jardin central de Hambourg. Et alors, Germain Müller a mis un panneau. Pour la première fois de son histoire, l'Alsace donne un morceau de sa terre à l'Allemagne,
c'est
sans guerre.
Ah, c'est beau ça. Ah, ouais, c'est très très beau. Alors, tu es aussi devenu son agent intime,
voilà,
son ami. Vous êtes plus quitté pendant 40 ans.
On s'est plus quitté pendant 40 ans. Je suis devenu son agent, en effet.
Et c'est quoi un agent? Il fait quoi, l'agent?
Ben, il trouve des clients. Et j'ai trouvé le plus beau client dont Tommy puisse rêver, M. Reinhold Wurt, qui possède 22 000 œuvres d'art et 15 musées.
C'est pas vrai.
Et lui a acheté 700 tableaux à Tommy.
Ah, papa. Mais
donc,
c'est jackpot, c'est mieux que le loto, ça.
Ah oui, et ça a permis à Tommy, 3 années de suite, de travailler tranquillement, sans pression financière.
Donc, ouais. Ouais,
et surtout d'être beaucoup plus connu
ouais,
dans le domaine de
ouais,
l'art.
Ouais, ouais, c'est
dans
ça,
le domaine du livre, il était très connu.
Oui, parce que ça, il me disait, quand je le rencontrais, que c'était l'école des loisirs, le livre qu'on a devant les yeux, là, Le géant de Zeralda, pour lui, c'était sa tirelire, c'était son argent de poche, il disait.
Oui. C'est surtout au début le Liederbuch en Allemagne.
Ah, ouais.
1 million d'exemplaires.
Waouh.
Parce qu'après la guerre, les Allemands avaient un peu honte de leur histoire,
bah oui,
et de leurs chansons. Et Tommy a redonné aux Allemands l'honneur de leur culture dans la chanson.
Ouais, parce qu'il était, on peut le dire, il était très productif. Tommy Unger, il n'arrêtait pas.
Il se levait tous les matins à 5 heures.
C'était une machine, c'était comme Picasso.
Il a fait 40 000 dessins.
C'est incroyable.
Oui, oui.
Moi, je connais un peu ces parce que j'aime beaucoup aller en Allemagne, là, du côté, de l'autre côté de au-dessus de Freiburg, dans le Spielweg.
Romantic Hotel, ouais. Spielweg.
Et là-bas, Madame Fuchs, elle a une salle, Tommy Ungerer, où il n'y a que des dessins. Tu manges dans la chambre, dans la salle à manger de Tommy, quoi.
Tommy faisait, comme certains artistes, comme Picasso, parfois, du troc, un séjour contre un dessin.
Excellent. Ouais, il avait déjà le sens du business. Oui, ça, il l'a pris avec toi, j'imagine.
Aussi, ouais, j'ai... Aussi. Toujours été le spécialiste du mécénat.
Ah ouais, c'est bien, mais t'as bien raison. Ouais. Alors, en France, c'est vrai qu'on disait à l'instant qu'il était beaucoup plus connu par l'école des loisirs. Hein. C'est ça qui l'a fait connaître ici.
Exactement, tous ses livres pour enfants. Il en a fait 87.
Pour l'école des loisirs, 87 livres.
87 livres pour enfants.
Ouais, donc il y a le gérant de Zaralda, il y a
Jean de la Lune,
Otto, la grosse bête de Monsieur Racine, que mon fils Maxime a lu. Et d'ailleurs, il lui dédicaçait ses livres quand je le rencontrais. Je l'achetais, puis il lui faisait des belles dédicaces.
Oui, ça, Tommy, il adorait faire ça.
Ouais, ouais.
Des beaux dessins.
Avec un graphisme comme ça, était extraordinaire. Tu fais le même d'ailleurs
quand
tu
dédicaces. Oui, j'adore écrire des fois.
Avec un beau stylo, une belle plume, Rotring, comme ça, tu fais
ça. Oui, pour moi, la calligraphie, je l'ai apprise avec les baffes des bonnes sœurs.
Alors, on peut le dire, tu étais son grand ami et tu vivais avec lui en Irlande pendant tes vacances d'été.
Oui, j'allais passer 20 ans, j'ai passé mes vacances d'été auprès de lui dans le sud de l'Irlande.
Vers Cork ?
Voilà, dans le comté de Cork, mais tous aux yeux de la dernière maison avant les États-Unis.
Wow.
Même les oiseaux étaient obligés de faire demi-tour.
Ah oui, excellent. Alors, il vivait avec sa famille et ses moutons, hein, ses animaux.
Oui, il avait plein d'animaux. Sa femme adorait les chevaux. Elle montait toujours à cheval.
Écoute, on écoute un tout petit peu de musique. Musique irlandaise, si tu veux bien, pour te rappeler des bons souvenirs.
Oui.
Vas-y voir, mon ami Thomas.
Tiny child, bye bye, Lulay, Lulay. Oh, sisters, too, are my we do for to preserve this day, this poor youngling for whom we sing, bye bye.
C'est beau, hein, la musique irlandaise.
Ah oui,
on s'en lasse pas. Hein.
Ah ouais. C'est merveilleux.
Et alors l'Irlande, raconte-moi
un
peu.
C'est un pays d'écrivains.
D'écrivains.
Pour ça aussi, Tommy a adoré l'Irlande. C'est le pays des écrivains.
Des artistes.
Il avait horreur de la Grande-Bretagne, enfin de l'Angleterre. Leur côté.
Et c'était comment ces paysages où il vivait, j'imagine, c'était la nature.
Alors lui, il était au verdoyant. Bord de l'océan.
Ah ouais, carrément.
Il voyait les grandes vagues arriver. En plus, dans sa propriété, les Irlandais qui luttaient contre les Anglais, ils venaient amener leurs armes là en bas.
Ah ouais, ok.
Donc.
Et c'était comment son atelier? C'était de fouillis? C'était bien rangé? C'était comment?
Tommy, c'est ordre. J'aurais bien aimé suivre son modèle, mais je n'arrive pas. Je suis bordélique, mais lui, tout était rangé.
Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il vient quand même d'une grande famille d'horlogers. Hein,
d'horlogers,
Où en fait, tout était minutieux, tout était rythmé par l'heure, par le temps. Donc, il était comme ça aussi dans son atelier.
Il était
chaque chose à sa place.
Oui, oui. Ouais. Et le temps est très présent dans son œuvre. Les montres, les horloges, tout ça, c'est important dans sa vie. Ouais.
Alors, on sait aussi que de l'Irlande, il venait souvent à Strasbourg. Tu disais qu'il prenait les taxis, il allait visiter sa ville. Il habitait là derrière, où
Jean-Jacques Rousseau. Oui, il habitait au Tivoli.
Ouais, je me souviens, dans sa maison familiale.
Son papa avait fait construire cette maison avant-guerre, sur trois niveaux, justement, qu'il soit autonome. Et du coup, ils pouvaient la louer, puisque quand le père meurt, ils partent à Colmar, ils vont vivre à Colmar, Tommy va étudier à Colmar.
Ouais, ouais.
Mais en même temps, ils pouvaient louer les appartements de la maison.
De la maison.
Et Tommy a gardé toujours le dernier étage.
Ouais, le grenier aménagé où il y avait des poupées comme ça qui se baladaient, tous des mannequins un peu olé olé, je me souviens bien de ça.
Il avait même une horloge,
ouais.
Et dans laquelle il avait planqué une mitraillette qu'il avait récupérée à Colmar après la guerre.
Oui, ça me parle, ça.
Mais qui était un peu démontée, quoi.
Ouais.
Je lui ai même trouvé le mode d'emploi un jour dans une vente aux enchères.
Ah oui, ok. Après, il avait son magnifique musée de jouets, là, à côté de la...
Voilà, c'est pas le jouet, c'est un musée du dessin.
Du dessin,
C'est la première fois qu'il y a un musée du dessin totalement consacré à Tommy et au dessinateur.
Et après, il a quand même des jouets qui sont exposés, plein de jouets.
Il a une énorme collection de jouets, mais malheureusement, c'est un de ses rêves qui n'a pas abouti. Il aurait rêvé qu'on mette le musée du jouet juste accolé à son musée du dessin.
Ah, c'est pas dans les étages.
Il n'y a pas.
Ah, il n'y a plus.
Il y a quelques dessins au musée, au château du Rouen, mais c'est tout.
Et alors, il avait aussi cette amitié avec l'Allemagne. Hein. Il était très, très lié avec les Allemands.
Le symbole du franco-allemand.
Avant l'heure, hein, il était quelqu'un de... C'était, le Rhin, pour lui, c'était comme une sorte de pince à linge qui tirait les deux bords, comme ça, l'un vers l'autre. Quoi.
Sur une jambe de femme.
Exactement. Ouais, je me souviens.
Avec une jarretelle.
Oui, ça, il l'oubliait jamais, ça. C'est vrai. Et alors, à Strasbourg, à côté de l'Opéra, il y a cette jolie... La naissance de la civilisation avec Janus.
C'était Germain Müller avait demandé à Tommy de faire un projet pour le bimillénaire en 1988.
Ah ouais.
Et donc Tommy a conçu cet aqueduc de Janus.
De Romain, comme ça
Romain, de la période romaine.
Romaine, et puis il y a cet homme
ça
qui a...
Ça s'arrête à la bouche.
Il disait souvent « d'arrêter nos folles », tu sais, en Alsacien.
Voilà, le problème linguistique de l'Alsace.
Absolument.
Il disait « l'Alsace est toujours occupée
».
Les
ouais.
Allemands ont interdit de parler français, mais les Français, après, nous ont interdit de parler alsacien.
Ouais, puis il le prenait, l'Alsacien, il en parle.
Défenseur.
Complètement.
Oui.
Comme toi, aujourd'hui aussi.
Je vais partir à Metz manifester pour la sortie du Grand Est.
Tu crois que ça va marcher, ça ?
Ça marchera.
Ça marchera.
Il faut un peu de patience.
Tu penses pas, Robert, qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, de se cloisonner ?
Non, on a une histoire.
On a
une histoire, une filiation. On travaille beaucoup avec le BAD. On n'a rien à faire avec l'Ardèche, les Ardennes ou la Champagne. Ils ont un beau Champagne, c'est bon.
Oui, c'est bien. Ben, t'as bien raison. Alors là, devant toi, on voit le beau trophée de la Bretzel d'or qui était en cristal lalique. Quel beau trophée. Tu l'as eu en 2019.
Voilà.
Moi, en 2018, c'est quand même extraordinaire d'avoir eu ça.
C'est une beauté,
Beauté.
Et c'est en
cristal. Dis-le à Bernard que c'est plus beau que son trophée qu'il a actuellement.
Le trophée en cristal, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Merci d'être venu jusqu'à chez nous, Robert. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses en 2026. Beaucoup de bonheur, beaucoup tout et tout, et continue comme tu es. Et ne change rien.
Merci beaucoup, André. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Judaïka.
Allez, générique de fin. Merci.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.